Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches, à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Éric Julien. Bonjour Éric Julien.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Éric Julien, vous êtes géographe et consultant en entreprise, mais vous aimez dire, je crois, que vous êtes un explorateur des interstices.
Ah là, vous laissez un silence planer. Qu'est-ce que c'est qu'un interstice? Ça vient de ma formation de géographe, où j'ai appris en géologie que dans les zones de montagne, quand il fait très chaud la journée en altitude, la neige fond et se faufile dans les petites failles de rochers. Et quand la nuit vient et que la température baisse, elle gèle, l'eau gèle, ouais. Et fait un phénomène qu'on appelle de gélifraction, ouais. Donc d'explosion. Donc j'adore me faufiler dans les petites fissures pour aller voir comment faire exploser ce qui doit être explosé.
C'est ça, vous aimez que ça explose.
Ça commence bien.
Ça commence bien. Et vous avez choisi comme journée particulière, donc le 24 décembre 1985. Ce jour-là, vous avez fait une rencontre qui a bouleversé le cours de votre vie.
La Sierra, c'est le cœur de l'univers. C'est la mer. Avec elle, nous pouvons vivre. Elle nous protège. C'est d'elle que nous venons. Il faut la respecter.
Éric Julien, vous étiez où en décembre 1985?
En décembre 85, je suis dans les Caraïbes, en Colombie. Et il se trouve qu'il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer, la Sierra de Sainte-Marthe, dont les sommets enneigés bleutés culminent presque à 6000 mètres à 38 km de la mer des Caraïbes. Et à cette époque-là, j'étais jeune, j'étais gentil, j'étais guide de montagne. On m'a dit « la plus haute montagne du monde en bordure de mer ». J'ai rêvé d'aller voir la mer depuis là-haut et donc je suis parti avec un groupe, une espèce de petite expédition, et je suis tombé malade à 5000 mètres.
Et alors malade de comment? Qu'est-ce que vous avez
eu? Eh bien, quand on monte parfois un peu vite, ou quand on dort dans la tente de quelqu'un qui peut avoir une angine, ou quand l'air est assez humide, ce qui est le cas de cette montagne, j'ai eu un œdème pulmonaire, donc c'est de l'eau dans les poumons. Il n'y a pas de douleur physique, sauf que vous ne pouvez plus vous mettre debout, vous ne pouvez plus marcher, vous êtes un petit paquet. Et le peu d'oxygène qui vous reste dans la tête commence à vous dire... Comment je vais m'en sortir? Donc, il y avait une petite expédition. Il y avait un monsieur qui avait organisé tout ça, qui gentiment est parti, essayer de trouver une mule, essayer de trouver un Indien, puisque c'est effectivement une montagne où vivent des Indiens. Et puis, le groupe qui était avec moi me faisait faire 10 mètres. Puis on est comme en altitude, donc c'est fatigant. Puis, on s'arrêtait, puis 10 mètres, puis on s'arrêtait,
vous
puis 10 mètres.
Vous ne teniez plus debout, vraiment?
On tient plus debout et c'est à peine si on peut respirer, parce qu'on n'a plus l'énergie pour faire fonctionner les poumons. Et vers 3-4 heures de l'après-midi, j'ai vu les oreilles d'une mule arriver. J'étais mis sur la mule. Puis là, la mule et son propriétaire m'ont redescendu en altitude. Le monsieur qui m'avait accompagné est remonté, s'occuper du groupe. Et moi, je me suis retrouvé tout seul à 3800 mètres au milieu de la montagne, sans trop savoir ce que l'avenir allait me réserver. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas manger, je ne peux rien faire. Et la tente claque dans le vent. C'est une lumière d'altitude très, très brillante, très vive. Tout est pur à cette altitude-là. Et vers je ne sais pas quelle heure ni combien de temps, je vois le bord de la tente qui se soulève et un visage qui me regarde avec des grands yeux. Donc j'ai appris après que c'est un Indien qui était là, qui a regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et il m'a vu moi. Et une heure après, le bord de la tente s'est relevé et j'ai eu un bol de soupe. Et je me rappelle encore de la texture de la soupe et du bol qu'il m'a offert.
Donc il vous a offert ce bol.
Et chaud, avec des petites pommes de terre.
Ah bon, il y avait des pommes de terre.
Je me rappelle les pommes de terre.
et à partir de là, vous avez été pris en charge, c'est ça?
Ben, j'ai pris, ça paraît très banal, mais pareil, 25 ans, votre pudeur, machin, il m'accompagne pour aller aux toilettes, ce qui est, voilà, pas facile. Et puis 3-4 heures plus tard, ou le soir, j'ai plus très, les idées très claires, c'est le lendemain matin, j'entends un cling, cling, cling qui me réveille. En fait, c'était les étriers d'un cheval.
Ouais.
Donc, ils m'ont chargé mes affaires, ils m'ont remis sur le cheval, et on est parti.
Et vous êtes arrivé où?
Ben déjà, on est descendu, ça n'en finissait plus. Puis arrivé à un moment, il y avait un carrefour. Là, ils ont rencontré d'autres Indiens, ils ont négocié, je ne savais pas quoi. J'ai su bien après l'objet de la négociation. Où est-ce qu'on me dépose? Est-ce qu'on me pose dans un endroit hypothétique où peut-être un camion viendra me chercher un jour, mais c'est très hypothétique? Ou est-ce qu'on me remonte me soigner dans un village, sachant qu'ils ne veulent pas accueillir d'étrangers dans leur village? Donc il y avait qu'est-ce qu'on fait? Et quand la mule est repartie en montant, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on remonte?
Ils vont me faire crever.
Et là, je me suis retrouvé dans un village de Schtroumpfs. Ils sont tous habillés en blanc avec des chapeaux pointus blancs, et j'ai découvert ces Indiens qu'on appelle des Indiens, des archaïques, des primitifs, en fait des humains extraordinaires qui m'ont soigné et qui m'ont sauvé la vie, les Kogi.
De quoi vous vous souvenez? Quelles images vous gardez parce que vous étiez dans les vapes?
Je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, des levées et des couchers de soleil, parce que je dormais pas beaucoup, et les couleurs extrêmement denses. Je me rappelle de la rivière dans laquelle ils me baignaient la nuit, très froide, pour contracter les tissus.
Ouais.
Et je me rappelle pas de sourire, mais en tout cas de visage bienveillant. Et surtout de voix, de fumée, parce qu'ils utilisent beaucoup le feu dans les temples et dans leurs huttes. Puis des langues que vous comprenez pas, des pratiques. Puis vous vous demandez, mais vous êtes où, quoi?
Vous aviez l'impression de rêver, parce que ça pouvait ressembler à un rêve, à une sorte de cauchemar?
Non, je pense que quand le cerveau reçoit trop d'informations nouvelles d'un seul coup, il peut pas les organiser, il les reçoit.
Donc vous laissiez porter?
Voilà, donc j'étais pas en position de, et c'est très bien d'ailleurs, d'analyser, de dire qu'il se passait un truc. Je dépendais d'eux, et j'ai bien eu de la chance qu'ils me mettent pas à coup de pied derrière, hors de leur territoire.
Alors justement, pourquoi ils l'ont pas fait quand vous leur avez posé la question? Pourquoi ils vous ont ramassé? Pourquoi ils vous ont pas laissé là, comme ça?
Je pense qu'il y a deux raisons qu'on peut voir. La première, c'est que j'ai retrouvé c'était un papa et ses deux fils qui m'ont descendu, et j'ai retrouvé le papa et je lui ai posé la question. Pourquoi vous m'avez descendu? Et ils m'ont dit parce qu'on voulait pas laisser de poubelle dans l'autre montagne. J'ai dit tiens, c'est des gens qui ont de l'humour. J'aurais pensé un truc un peu plus spirituel, mais non. Et puis je pense que c'est des trucs dont on perd un peu l'habitude. Je pense que quelqu'un est en difficulté, il aide, quoi. C'est cette solidarité des régions un peu difficiles. Je pense que dans plein de régions du monde, quand quelqu'un est en difficulté, on l'aide. Mmh. C'est une relation humaine simple et belle, quoi.
Et donc vous, dans cette relation humaine simple et belle, vous avez demandé en retour, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Alors, j'étais très très degré zéro de la conscience humaine, mais bon, pourquoi pas, et on passe tous par là. Et donc je leur dis merci de m'avoir sauvé la vie, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, quoi. C'est
ouais,
un
voilà.
Petit côté chevaleresque.
Oui, c'est ça.
Alors, ils me parlent, complètement naïfs, ils me parlent de leur montagne qui est cernée par la guérilla, les paramilitaires, les FARC, les narcotrafiquants, les routes, le tourisme, les pierres de tombe, le bois précieux, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer comme joyeuseté de la modernité.
Ils vous expliquent tout ça?
Ils me parlent de tout ça, et surtout ils me disent on a perdu 80% de nos terres en 40 ans, là, donc on est acculé sous les sommets, on va mourir. Et surtout la mère terre va mourir parce qu'on ne pourra plus la soigner, on ne pourra plus parler avec elle si on n'a plus de territoire. Pour eux, le territoire, c'est le contact avec la terre. Aide-nous à racheter, en tout cas ils n'ont pas dit racheter, mais aide-nous à récupérer nos territoires ancestraux. Donc je me suis dit, pas de problème, on a topé dans la main.
Et vous avez fait votre promesse en disant je vais
dit,
vous aider.
J'ai dit je vais vous aider à retrouver vos terres. Oh, mon Dieu.
Et là votre vie a été bouleversée. Et puis on vous a mis sur une mule. Le 8 janvier vous êtes
ressorti.
Comme on sort d'un rêve.
Il y a quelque chose de l'ordre d'une porte se ferme. Quelque chose repart dans l'obscurité et vous repartez, je mets des guillemets, dans la vie normale. Et voilà, ça vient dans quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve, oui, de quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça?
Et nous, ici, on écoutait cette chanson d'époque pendant ce temps-là.
I met my love by the gasworks wall. Dream the dream. The old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are proud. at night. Dirty old town, dirty old town. Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Dirty old town. Dirty old town.
Ça vous va bien cette musique, Éric Julien?
Ah, ça me rappelle un frère d'armes ou un frère de cœur, j'ai pas envie de dire frère d'armes, qui sillonnait la montagne pour justement retrouver ses terres. Et j'ai l'image en écoutant la musique de, il était sur une mule. Je sais pas, c'était un croisement entre Lucky Luke et je sais pas qui. Et la musique était parfaite pour le ramener parmi nous aujourd'hui, parce qu'il est mort malheureusement.
Alors une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h sur France Inter. Et c'est donc le géographe et le chercheur d'interstices. Éric Julien qui est notre invité jusqu'à 15h. Vous avez choisi donc comme journée particulière ce 24 décembre 1985. Ce jour-là, des Indiens Kogi de la Sierra Nevada en Colombie vous ont sauvé la vie. Et en échange, vous leur avez donc promis de récupérer leurs terres. Et puis vous êtes rentré en France.
Plus rien.
Et puis la vie a repris son cours.
Quand vous rentrez en France à 25 ans, on vous dit bon, c'est bien gentil toutes tes histoires maintenant.
Il faut
une vie sérieuse, un travail, un salaire, une famille.
C'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu consultant et je dis souvent que dans consultant, il y a con et il y a sultan, celui qui s'y croit un petit peu. Et donc pendant quelques années, je m'y suis cru. Voilà, vous avez des grandes missions, vous gagnez bien votre vie.
Et puis
jusqu'à arrive un contrat où on vous demande de licencier du monde alors que tout va bien dans l'entreprise. Et je me dis, ça n'a pas de sens. Et puis vous vous dites quand même, je ne saurais pas le mot exact, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est des idées qui vous reviennent tout le temps dans la tête, mais il y a quelque chose de l'ordre de, il y a quelque chose à faire qui n'est pas fini, quoi. Il faut que tu retournes là-bas, terminer ce que tu as commencé, surtout...
Comme une petite musique.
Ouais, il y a quelque chose, tenir ton engagement, quoi. Vas-y.
Et c'est cette petite musique-là que vous avez en tête. C'est la musique des Kogi.
C'est des... Les Kogi ont une manière de considérer la nature bien différente de la nôtre. La nature est un sujet. Nous, on a ramené ça à un objet, matière première. Eux, c'est un être vivant, donc il parle avec la nature. Et ça, c'est un des éléments de dialogue.
La musique ?
Les sons de tortue qu'on vient d'entendre. C'est pour rappeler la pluie.
Alors, ce rêve ou cette petite musique vous appelle ? Vous appelle et vous demande, en fait, de revenir ?
En tout cas, ce qui était sûr, c'est que je ne pouvais pas rester dans cette entreprise de consultant, qui avait une porte qui avait été mal fermée, ou voilà, qu'il fallait que je retrouve là-bas. Et puis finalement, j'avais pris un engagement. Est-ce qu'il n'était pas important de le tenir?
Et ça, c'était quoi, 10 ans après?
Je pense que ça a dû être vers 92 que je me suis posé la question. Donc, et puis, ouais, 94, 95, que à la fois je me suis donné les moyens en temps et en argent, parce que ça coûtait des sous de prendre un billet d'avion et de repartir.
Alors vous repartez, vous allez au pied de la montagne.
Et puis là, je suis bien embêté.
Pourquoi ?
Je suis bien embêté parce que c'est une grande montagne.
Très grande
très
montagne.
Très abrupte. Il y a un géographe qui était expert là-dedans dans les années 1825, pardon, qui déjà décrit une montagne impénétrable avec de la forêt partout, enfin, par où on rentre. Et quand je suis arrivé, une fois qu'on descend de l'avion et qu'on se dit, mais par où on rentre ? Je ne me souvenais plus par où j'étais sorti.
Ouais, et puis 10 ans, 8 ans étaient passés aussi.
À qui demander, où trouver ces Indiens que j'avais pas bien identifié, leur nom, je ne savais pas trop où ils étaient.
Vous n'avez pas compris que c'était les Indiens ? Indiens coquilles. Si, tu savais mais que c'était des Indiens.
Il y en a 25 000. Donc, ouais. Où sont-ils? Voilà. Dans quel village vivent-ils? Ils se déplacent. Donc, j'ai bien mis 3-4 ans à faire le tour de la montagne plusieurs fois, plusieurs voyages.
Pendant 3-4 ans, vous revenez?
Ouais, je suis revenu plusieurs fois. Ouais.
Et à chaque fois, vous essayez un nouveau chemin pour retrouver les gens qui vous ont sauvé la vie?
À chaque fois, je discute avec des Indiens. Est-ce que tu connais? Par où on pourrait faire? Comment? Puis tout avait l'air compliqué. Vous savez, il y a des fois dans la vie.
Oui.
Vous essayez d'aller à droite, je sais pas pourquoi. Rien ne marche. Et là, rien ne marchait. Et au moment où chaque fois je demandais, mais comment je dois faire? Au fur et à mesure où je posais mes questions, tous les gens me répétaient, des Indiens, des non-Indiens, tu devrais rencontrer Rentil Cruz. Lui va t'aider. Ah, bon, d'accord. Puis chaque fois, finalement, je demandais, il est où ce Rentil Cruz? Et chaque fois que j'arrivais dans un village, on me disait, oh, bah, il est parti hier. C'est ballot. Et chaque fois que je partais, on me disait, c'est dommage, il vient demain. Oh, ça a duré un an, ce petit jeu.
Ah,
et puis un jour, j'arrive dans un village, je pose ma question, Rentil Cruz, il est là, il est au bout du chemin. Et j'ai rencontré Rentil Cruz.
Et pourquoi ce jour-là, il était là?
Parce que je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, ça fait un an que je te cours après, enfin que je vous cours après. Bah oui, on m'a raconté qu'il y a un gringo qui me court après depuis un an. J'ai voulu voir la tête qu'il avait, donc j'étais attendu. Ah ouais. Et moi, je l'ai regardé, c'était un petit bonhomme tout rond. Et je lui ai dit, c'est ça le mec qui est censé m'aider à racheter des terres et à rentrer dans l'univers Kogi. Et en fait, c'est devenu un ami de cœur, quoi, un bel ami.
Et c'est avec lui que vous avez tenu votre promesse.
Il m'a regardé, il m'a dit, tu veux vraiment racheter des terres au Kogi? Alors on s'y colle tout de suite. Tu rentres en France, tu trouves l'argent, moi je trouve la terre, on démarre tout de suite.
C'est ce que vous avez fait, Fissa?
Ah là, j'ai plus le choix.
Vous êtes rentré?
Je suis rentré, j'ai trouvé l'argent, il a trouvé la terre.
Mais comment vous avez fait? Vous dites quoi? J'ai rencontré des Indiens qui m'ont sauvé la vie.
J'ai trouvé un article dans Libération à l'époque qui disait, oh, il y a une communauté indienne en Amérique centrale, ils ont racheté leurs terres. J'ai dit, ben voilà l'idée. Donc j'ai commencé à solliciter mes amis d'amis, une généreuse donatrice qui s'appelle Françoise, qui a largement contribué pour rassembler la première somme, on va dire. Un peu, on appellerait ça du crowdfunding de papier à l'époque, ouais. Pour trouver l'argent. Puis un jour, on a réuni l'argent, et puis on a été ensemble, Rentil, moi et les Kogi, visiter cette première terre. Ça, c'était un grand moment.
Et ça, c'était en 1999.
99, là j'ai mis du temps.
Il y a quelques années, le village de Maruamaki était plus haut. On a d'abord été ici, puis on a été repoussé là-bas. Et ici, c'est devenu la terre d'un colon. Ça fait seulement 3-4 ans qu'on a récupéré cette terre et qu'on peut y vivre nombreux.
Si, ojalá que siguiéramos recuperando en esta manera.
On ne récupère pas la terre uniquement pour la travailler, mais aussi pour faire des offrandes traditionnelles. Depuis qu'on a récupéré cette terre, on a fait des rituels et on a obtenu de bons résultats. Les récoltes sont devenues meilleures.
Éric Julien, en récupérant les terres ancestrales des Indes, les Indiens Kogi disent qu'ils réveillent la terre. Ça veut dire quoi? Parce que c'est pas seulement une histoire de récolte et de meilleure récolte. Il la réveille. Il lui redonne vie.
Ils ont, leurs chamans ont une formation qui dure 18 ans dans le noir. Et pendant 18 ans, si je devais résumer, je dirais qu'ils apprennent l'âme des choses. Donc, une terre en bonne santé, c'est comme si elle avait une âme, si on osait aller jusqu'au bout. Et donc, ils vont réveiller toute la vie de cette âme. Alors, ça commence par faire revenir un insecte. Puis quand l'insecte revient, l'oiseau qui va peut-être le manger va revenir. Puis dans les fientes de l'oiseau, il y aura une graine qui va revenir. C'est tout un espèce de tissage pour redonner sa vie à la terre. Et c'est un tissage qui se passe tout doucement par petites étapes et qui obtient des résultats en termes de régénération forestière qui ferait se damner ou blanchir nos ingénieurs agronomes s'ils avaient l'humilité. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont, mais pas tous, de dialoguer avec ce genre d'experts du réveil de la biodiversité.
Mais on prend les terres des Indiens Kogi, pourquoi? Pour cultiver de la coca?
On prend les terres des Indiens Kogi et des Indiens en général, c'est toute l'histoire, le drame, c'est la colonisation. Les Indiens, René Char les appelait les invisibles, ce qu'on ne voit que quand notre développement barbare, brutal et masculin frappe à leur porte sans aucune sympathie, on va dire. Et donc là, tout d'un coup, on voit qu'il y a un monsieur avec un plateau, la Raoni, qui dit « mais attendez, là, on peut... » Et hop, il disparaît, happé par notre modernité. Donc on prend leurs terres pour les ressources naturelles, pour faire du tourisme, pour utiliser le bois précieux, pour piller leurs tombes, pour faire des cultures intensives, pour mettre de l'élevage, enfin voilà, pour faire tout ce que nous jugeons bon de faire pour développer nos sociétés modernes. Et en faisant cela, je pense que nous perdons quelque chose, qui est que nous perdons la conscience, ça va peut-être vous faire sourire, de la féminité du monde, c'est-à-dire la dimension invisible, la dimension sensible. Et ce n'est pas bien ou mal faire les choses que de les aider. C'est juste comprendre que l'un ne va pas sans l'autre et qu'un monde déséquilibré qui a perdu sa part, la conscience de sa part féminine est un monde malade.
Et alors les Kogi ont compris ça. Les Kogi ont compris la part féminine de la Terre.
Non seulement ils l'ont compris, mais ils ne vivent même que ça. Et c'est pour ça qu'ils sont très tristes de voir quel comportement nous adoptons vis-à-vis, j'ai envie de dire, de la femme, des femmes et du féminin. Dans leur société, le féminin est au centre. C'est la matrice de vie. Enfin, c'est ce qui donne la vie. Nous, on est un peu bancal tout seul avec notre petite canne. Et donc, ne pas comprendre qu'il faut protéger, préserver, se mettre au service. Ils nous regardent en disant, mais vous n'avez pas raté une marche, là. Et voilà.
Mais alors, pourtant, vous étiez deux hommes à partir à la recherche de ces terres ancestrales. Vous et Rentil Kroes, qui vous attendait, donc qui vous a attendu pendant longtemps au coin de la rue d'un village, je ne sais où, dans la Sierra Nevada. Vous étiez deux hommes à faire cette entreprise.
Rentil était un métis, il était né d'un droit de cuissage, donc je pense que c'était un explorateur d'interstices de première qualité. Et quand on n'est pas tout à fait normal dans un monde soi-disant normal, on apprend vite les dimensions de douceur et de bienveillance.
Soy Gentil Kroes. Mi abuela y mis abuelos pues eran indígenas. Me siento como muy feliz de poder interpretar como un poquito las dos cosas, la parte de los indígenas y de sentir que llevo sangre indígena y poder interpretar un poquito así como el pensamiento de los no indígenas. Entonces eso no es que me haga más grande, sino que me hace más humilde. Cuando llegué donde los Kogi, lo primero que encontré fue que había un mundo totalmente diferente al que tenemos afuera. Tengo la facilidad de que los indígenas, tengo acceso a ellos, han tenido confianza en mí, y bueno, ¿por qué no poder servir de un poco de puente?
Eric Julien, si vous permettez, je vais traduire ce que dit Rentil Kroes, à moins que vous vouliez vous-même. Il dit « Mes parents étaient des indigènes et je me sens très heureux de pouvoir interpréter les deux choses. La partie indigène, sentir que j'ai du sang indigène et sentir que je peux interpréter un peu la pensée des non-indigènes. Cela ne me fait pas sentir plus grand, mais cela me rend plus humble. » La première chose que j'ai découverte en arrivant chez les Kogi, c'est qu'il existait un monde totalement différent de celui qui existe dehors. J'ai accès aux indigènes, ils ont confiance en moi, alors pourquoi ne pourrais-je pas servir de pont? Et c'est ça qu'il a fait, Rentil Kroes.
C'est ça qu'il a fait, et tous les gens qui sont en marge, et Rentil, de par son histoire, était un peu en marge.
Parce que métis,
souvent, sont dans cette position de relier. C'est une position qui est difficile, mais c'est une position qui aide à explorer cette dimension féminine dont on parlait, et qui aide à nourrir la relation. Nous ne sommes que des êtres de relation, et Rentil était un être de magnifique relation.
Donc c'est lui qui cherchait les terres.
Il partait avec sa petite mule, comme la petite musique de tout à l'heure. Il cherchait discrètement, parce que vous doutez bien, quand on cherche une terre, on était parfois en concurrence avec les trafiquants de drogue qui achetaient pour mettre de la coke, ou dès qu'on savait qu'il y avait un achat possible, les prix montaient. Enfin, tout ça était un peu complexe. Et une fois qu'on l'avait retrouvé, il y avait des relevés topographiques.
Mais c'est vrai, ça a été un vrai combat. C'est-à-dire, on ne rachète pas des terres comme ça, surtout en Colombie.
Je me rappelle que même des fois, des soirs, on s'est dit on doit l'acheter vite parce qu'autrement, ça va être investi par la coke et c'est pas possible. Donc, on était à la fois un peu fous, je pense,
d'acheter de la terre
plus vite que les narcotrafiquants. Voilà,
C'est ça que vous faisiez avec Rentil Kroes.
C'est pas très raisonnable.
Pas très raisonnable, mais en attendant, vous avez restitué combien de terres aux Indiens.
La grande difficulté, c'est de faire le point entre le cadastre ou ce qu'il en reste parfois, ce que les propriétaires ont dans la tête, la réalité du GPS. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut dire autour de 1800-1900 hectares de terres rachetées, restituées, sur lesquelles des enfants vivent, des enfants naissent, des rivières coulent, des perroquets reviennent et la vie est là.
Et des terres réveillées.
Et des terres réveillées. C'est impressionnant, des terres réveillées, la forêt qui repousse.
Ouais, vous avez vu ?
Alors, on dit que ça fait moins de bruit que des arbres qui tombent, mais c'est beau.
Et alors, on a fait une petite chanson sur
pour
vous.
Moi. Ouais. C'est gentil.
Eric Julien, c'est une chanson qui parle de vous, qui dit que vous aidez les gens de la Sierra. Qui est-ce qui a écrit cette chanson ?
Il y a une culture de la musique qu'on appelle Bayenata sur la côte caraïbe, et donc ça raconte des histoires, comme souvent les musiques traditionnelles. Donc là, c'est des musiciens costeños qui ont saisi des brides de cette histoire et qui ont chanté cette chanson. Voilà.
Et qui dit quoi, à part vous aider les gens de la Sierra ?
Moi, que j'aide les gens de la Sierra, et que les cogis m'ont soigné avec des herbes. Et c'est toujours curieux de rentrer, je reste modeste, mais de rentrer dans une légende locale, parce que plusieurs personnes l'ont reprise. Une fois, je l'avais entendu sur une radio, c'était curieux.
Donc vous êtes devenu un personnage reconnu. On sait en Colombie ce que vous faites et ce que vous avez fait pour les Indiens.
C'est toujours très complexe. Je pense qu'il y a des gens, notamment les nouvelles générations, et pas que, qui pensent que c'est un travail juste et qui nous encourage en Colombie. Et puis il y a des gens pour qui un indios, c'est une insulte. Et plus vite on sera débarrassé de ces gens-là, plus rapidement on pourra se développer tranquillement. Il y a de tout, comme dans tous les pays. Je stigmatise pas la Colombie, donc faut savoir avec qui vous discutez.
Et donc en ce moment, vous discutez avec qui?
J'ai un silence. Je sais pas. Vous le savez peut-être, les élections colombiennes risquent de porter au pouvoir un président, on va qualifier ça plutôt d'une forme de droite extrême, pour pas dire extrême droite. Donc tous les mouvements paramilitaires se trouvent renforcés. Et donc la discussion va être complexe.
Pour les Indiens Cody et pour vous?
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
On a été menacés, les personnes qui travaillent là-bas maintenant ont été menacées il n'y a pas très longtemps, quelques jours. Là.
Les personnes qui travaillent pour les Indiens,
deux personnes salariées là-bas qui travaillent et qui se sont fait ouvertement menacer, ce qui veut dire que les gens qui menacent se sentent...
Le droit de le faire.
Le droit de le faire.
Menacés de mort ?
Vous savez, c'est assez explicite. Si tu continues à vous faire chier, on te tire une balle dans la tête. Et on sait qu'en Colombie, c'est pas des mots en l'air, quoi. La personne avec qui je travaille a eu la maison de son voisin brûlée il y a une semaine. Enfin, c'est assez clair.
Donc, c'est-à-dire la tension monte là en ce moment.
La tension monte, le chaos monte.
Votre association.
Et puis même, je pense que ce genre de situation qui met en tension des enjeux radicalement différents, ça va se multiplier et ça peut, dans ce contexte-là, que mal se finir. Mais on continue quand même.
Oui, c'est pas ça qui va vous arrêter. C'est pas la violence qui va vous arrêter. C'est-à-dire à la mort de Gentil Cruz, la violence ne vous a... Vous avez pensé à abandonner quand votre frère a été assassiné, parce qu'il a été assassiné par les paramilitaires.
Il a été séquestré en 2004 et assassiné, semble-t-il, en février 2005. Oui, les paramilitaires. Le monsieur s'appelait El Patron. Il était surnommé le Pablo Escobar de la côte caraïbe.
Mais vous, la violence ne vous fait pas peur ?
Si, bien sûr, surtout la mienne d'ailleurs.
Oui. Elle pourrait se réveiller
si elle fait
face
peur,
à la leur.
Mais là, Rentil a été un professeur exceptionnel. Parce qu'il m'avait beaucoup appris quelle peut être la posture juste quand sur ton chemin dans la forêt tout seul, alors que la sueur te coule dans le dos et que les moustiques bourdonnent, tu croises une bande de 10 paramilitaires qui te regardent et qui demandent qui tu es et d'où tu viens.
Alors ?
Eh ben, faut répondre en étant convaincu. Mais qui vous êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites sur mes terres ? Là, il y a 2 secondes de suspension, parce qu'ils sont pas habitués à ce qu'on leur parle comme ça. Et le monsieur, en l'occurrence, s'est mis au garde à vous. Il m'a dit d'où il venait, où il allait. J'ai dit passez. Puis après, je crois que je me suis assis, j'ai un peu les jambes qui tremblaient.
Ouais, mais ça marche pas à tous les coups.
Ça marche pas à tous les coups, c'est pour ça qu'il a perdu.
Mmh. En France, il y a un chanteur colombien que l'on connaît mieux que les autres. Vous savez qui c'est ?
Carlos Vives.
Non. Yuri.
Yuri Buenaventura. Que tal? Que bien.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup des pourquoi au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas t'es rencontré. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est pareil.
Une journée particulière, Zoé Varier.
La journée particulière d'Éric Julien, c'est donc jusqu'à 15h sur France Inter. Je rappelle, pour ceux qui me rejoindraient seulement maintenant, que ça s'est passé le 25 décembre 1985, Éric Julien. Votre vie a été bouleversée par votre rencontre avec les Indiens Kogi de Colombie qui vous ont sauvé la vie alors que vous faisiez un œdème pulmonaire à 4500 mètres d'altitude. Depuis, Éric Julien, j'ai l'impression que vous êtes devenu leur porte-parole et vous essayez de tisser des liens entre eux et nous. Vous les avez aidés, vous nous avez expliqué à récupérer leurs terres ancestrales. Et en échange, est-ce qu'ils vous ont initié à leur spiritualité, à leur pensée? Est-ce que vous avez été initié? Est-ce que vous êtes un peu Kogi aujourd'hui?
Je dirais qu'à partir du moment où on est sensible à la nature en nous, qu'on reprend doucement le chemin, que nous sommes des êtres de nature, forcément on est quelque part un peu Kogi. Les Kogi sont des gens qui considèrent la nature comme la mère nature, la matrice de la vie avec lesquelles on est en relation. Quand ils expliquent par exemple qu'ils font des offrandes, faire une offrande, c'est déjà avoir conscience de la gratitude d'être. Parce que on peut faire une offrande à ses parents, par exemple, si on a envie. C'est simplement pour se rappeler qu'on doit la vie à nos parents. C'est aussi bête que ça, se rappeler d'où on vient. Si on fait une offrande à ce qu'on mange ou à un arbre qui coupe, par exemple, c'est se rappeler que grâce à la vie, je peux prendre de cet arbre.
Et eux, ils font des offrandes aux rivières, aux arbres, aux plantes, pour chaque fleur, chaque brin d'herbe, chaque montagne.
Eh bien, leurs chamans, quand ils sont 18 ans dans le noir, apprennent l'esprit de chaque chose. ils vont connaître l'esprit de la fleur, de la pierre, de l'animal, des étoiles. Ils connaissent absolument tout. Et c'est en connaissant l'esprit de chaque chose incarnée qu'ils vont pouvoir faire les offrandes justes. Donc oui, presque une offrande pour chaque chose.
Et ça, ça se transmet depuis 4000 ans ?
Ça semblerait se transmettre depuis 4000 ans.
Oralement ?
Oralement, parce qu'ils ont peur de la parole, de l'écrit, pardon, parce que l'écrit, en passant par le papier, enlève le phénomène de l'expérience. C'est toute la question du rituel que nous avons supprimé chez nous.
Et qu'eux
ont gardé.
Vivent dans le rituel.
Parce que par l'expérience, vous apprenez d'autres choses et d'une autre manière que par le mental.
Pour les Kogi, tisser, c'est penser. C'est mettre les choses en accord les unes avec les autres pour atteindre la pureté et l'unité de l'esprit. Construire sa vie, c'est s'enrouler dans ses pensées comme on s'enveloppe dans un tissu. Je tisserai l'étoffe de ma vie. Je la tisserai blanche comme un nuage. J'y tisserai des épis sombres de maïs. Si mes pensées sont bonnes, ma vie sera sincère et heureuse.
Éric Julien, tout à l'heure, vous m'avez dit que quand vous les aviez vus pour la première fois, les Indiens Kogi, vous aviez eu l'impression de voir des schtroumpfs habillés en blanc. Et justement, les Indiens Kogi portent des vêtements qu'ils ont tissés eux-mêmes, qui sont des vêtements blancs, tout blancs. Et ils portent deux sacs, comme vous d'ailleurs, Éric Julien. Vous êtes arrivé avec un sac Kogi. Et à quoi servent ces deux sacs ?
Il y a un sac qui est porté à droite, qui permet de charger les éléments matériels de notre vie quotidienne, et puis un sac à gauche pour les éléments spirituels, et l'un ne va pas sans l'autre. Et le spirituel, souvent, est composé d'une multitude de petits objets symboliques, et le symbole, la racine du mot symbole, c'est relier, c'est mettre en lien, c'est ce qui leur permet de rentrer en communication avec ce que nous appellerions, sans trop savoir quoi y mettre derrière, l'invisible. Les symboles sont des petits objets qui permettent de se rappeler d'eux. Par exemple, pour pas perdre de vue le féminin et le masculin, ils ont tout un ensemble d'objets symboliques qui leur permettent de garder en permanence la conscience que l'un ne va pas sans l'autre.
Mais ça peut être quoi ?
Ça peut être, par exemple, des petits bracelets que j'ai comme ça autour du bras. Là, j'ai des petits bracelets en laine qui sont tissés par certains chamans, chaque chaman ayant une responsabilité énergétique particulière. Pour vous expliquer la responsabilité énergétique, il parle d'un corps territorial, un corps. Il y a le corps territorial, il y a le corps physique du corps humain, puis il y a le corps des constellations dans leur vision du monde. Et donc sur un corps territorial, un espace géographique, il y a des points d'acupuncture. Et donc dans chaque point d'acupuncture, des ezoamas, il y a des chamans qui sont responsables de ces points d'acupuncture et qui ont l'énergie qui correspond avec. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne fait pas pousser n'importe quelle plante sur n'importe quel sol et qu'il y a des natures de sol différentes. Donc chaque chaman a une responsabilité d'un point d'acupuncture de la terre, ce que l'on retrouve chez les bouddhistes tibétains d'ailleurs.
Notre grand problème, et je dirais un malaise de notre civilisation, c'est que l'ordre du rationnel et l'ordre du poétique sont devenus des ordres complètement séparés. Tandis que dans toutes les civilisation dite primitive qu'étudient les ethnologues, ce sont des ordres étroitement unis. Et le rationnel s'exprime sous forme poétique, et dans le poétique, on trouve du rationnel à l'état latent. Et tout mon effort, je dirais, si je devais le caractériser en un mot, celui de toute ma vie, celui de tous mes livres, ça a été précisément d'essayer de retrouver, à travers l'étude de ces sociétés, cette alliance primitive entre le poétique et le rationnel. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer dans les titres de mes livres.
Et oui, Éric Julien, c'était Claude. Claude Lévi-Strauss, vous l'avez reconnu. Et moi, j'ai trouvé que chez les Indiens Kogi, on retrouvait cette alliance entre le poétique et le rationnel, avec par exemple l'utilisation des coquillages. J'adore l'idée qu'il faut amener des coquillages à la montagne, qu'il ne connaît pas la mer. pour qu'elle connaisse, pour que la montagne appréhende l'idée de la mer.
Vous savez, il y a un symbole qui parle du taoïsme, qu'on appelle le yin et le yang, et dans le yin, il y a un petit point qui symbolise la présence du yang, et réciproquement, il y a quelque chose de cette nature. Pour pouvoir grandir, il faut connaître l'autre, il faut connaître l'autre dimension. Donc effectivement, on les aide, parce que maintenant ils ont du mal à aller tout seuls au bord de la mer, parce que c'est compliqué d'accès pour eux. On les aide à aller dans des points de rituel, des ezoamas, des points d'acupuncture en bordure de mer. Ils font tout un travail d'offrande et puis ils prennent des coquillages et ils vont les mettre à des points d'acupuncture très précis. Et il y a une dimension à la fois spirituelle, à la fois symbolique, à la fois énergétique.
Et poétique.
Et puis à la fois même très chimique, parce que c'est un peu comme de l'homéopathie. Ouais. Ces coquillages ont une mémoire cellulaire, on va dire ça comme ça, qui dans leur vision des choses peut soigner la Terre.
Mmh. Alors il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée sur ces Indiens Kogi, c'est le rapport à la parole. Vous racontez que à une conférence, les Kogi avaient choisi un interprète et qu'il était juste sourd et muet. Et ça, je trouve cette histoire formidable parce que cet interprète regardait autre chose et ça lui suffisait pour pouvoir comprendre et interpréter ce qui était dit. C'est ça ?
Il y avait quelque chose de cette nature. Il y a deux choses. Les paroles qu'on utilise, les mots qu'on utilise, l'intention qu'on met dans les mots dit quelque chose au-delà des mots.
Ouais,
et puis, il s'intéresse beaucoup plus à la gestuelle, la manière dont vous êtes assis, les expressions du visage, comment vous vous reliez, etc. Le champ de la communication est bien plus vaste que nos petites machines numériques dans lesquelles on met l'essentiel aujourd'hui.
C'est pas le visible qui compte.
C'est bien autre chose que le visible. C'est beaucoup plus large que ça. En fait, quand on regarde aujourd'hui la vie, on sait pas vraiment ce que c'est.
Non.
Imaginez les chamans Kogi, il y a des hommes chamans, des femmes chamans, c'est les sagas. Et il ne viendrait pas à l'idée d'un homme chaman de faire un rituel sans la dimension féminine qui est plutôt elle qui organise. Ils sont 18 ans dans le noir pour faire leur formation de chaman.
Ça, c'est fascinant.
Ils captent une information qui est la même que celle que nous captons quand nous sommes dans le ventre de notre maman pendant 9 mois. Où nous captons des choses selon ce que la maman mange, les émotions, il y a plein de choses qui se jouent. Donc la formation du chaman, c'est le prolongement pendant 18 ans des 9 mois de gestation. Et pendant 18 ans, les chamans vont recevoir la formation ou les connaissances de la mère, terre.
Et ensuite, quelle position ils ont au sein de la société ?
Eh bien, d'abord, quand on les voit, on n'a pas envie de se moquer d'eux.
Pourquoi ils font peur ?
Non, c'est pas qu'ils se font peur, mais ils émanent quelque chose d'un être au monde ancré, puissant, non pas dans la puissance d'agir sûr, mais ils sont présents, quoi. Ensuite, ils ont une bonté assez étonnante, une humilité assez étonnante, et ce qui me bluffe chez eux, c'est un humour. C'est des gens qui ont un humour, donc un espèce de détachement ou une manière de tenir les émotions à distance qui est complètement stupéfiante. Quoi.
Et vous parlez la langue Kogi maintenant ?
Mer Merji Karsa Keshimalo Ate.
Ça veut dire ?
Bonjour, comment ça va madame ?
Mais vous savez dire autre chose ?
Oh, je peux dire bonjour, au revoir, comment ça va ? Je suis content de vous voir, je reste un Kogi très 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 superficiel.
Vous parlez pas plus ?
Non.
Pas plus que ça. Et ça m'amuse aussi de penser que quand on pose une question à un Kogi, il peut mettre des jours à donner sa réponse.
C'est toute la différence entre notre société moderne précipitée qui s'agite et qui fait des réponses peut-être un peu rapides, parfois sans réfléchir. Ils ont une jolie expression pour ça, ils disent « vous pensez des pieds à la tête ». Vous agissez, puis après vous vous demandez si c'était pas un peu ballot. Et ben nous, on réfléchit d'abord pour peut-être pas faire l'action après parce qu'elle est complètement inadaptée. Donc voilà, ils accordent la pensée précède l'action et c'est pas inintéressant.
La pensée précède l'action et la pensée est toujours, on prend en compte le tout. On ne prend pas en compte seulement...
Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Il y a une décision dont nous, ou le chaman, si c'est lui dont il s'agit, est capable d'assumer les conséquences. Donc plus vous avez une vision large du système et de ses implications, plus la décision que vous allez porter va être juste.
Journée particulière. Zoé Barrier sur France Inter.
Éric Julien, on a pour habitude dans la dernière partie de l'émission justement d'évoquer les quelques événements de l'année que vous avez choisi. Donc pour vous c'est 1985 et il se trouve qu'en 1985 la Colombie est un des lieux de l'actualité.
Un volcan n'est jamais définitivement éteint. Une nouvelle fois, la nature vient de nous le rappeler. Inactif depuis près de 100 ans, le Nevado del Ruiz vient de rayer de la carte la ville d'Armero, en Colombie. Armero, une cité qui comptait une cinquantaine de milliers d'habitants et qui a été engloutie dans un fleuve de boue. 4000 corps ont déjà été dégagés. Véronique Tabou.
Cette femme qui essaie de sauver son enfant dans ce fleuve de boue, l'image du drame qui s'est déroulé à Armero. Un seul refuge, les arbres. Ces rescapés ont attendu toute la nuit les premiers secours. De la ville, il ne reste désormais qu'une plaine recouverte de boue. Très rapidement après la catastrophe, les secours se sont organisés. La Croix-Rouge, l'armée se sont mobilisés pour acheminer nourriture, vêtements et médicaments. De son côté, la France va ce matin envoyer plusieurs équipes de secours sur place.
Vous étiez, Éric Julien, c'était en novembre 1985, vous étiez là, vous étiez déjà en Colombie.
Le volcan a explosé la fin d'après-midi et nous sommes arrivés sur le site d'Armero vers 5h, 6h du matin. Et je me rappelle avoir demandé aux secouristes où est Armero et ils m'ont dit vous venez de le traverser, il n'y a plus de ville, il n'y a plus rien, ça avait été rasé. Et on a retrouvé un monsieur qui marchait au bord de la route avec un petit baluchon qui avait perdu tout, sa maison, sa famille, tout. Il avait juste son casse-croûte de la journée parce qu'il était censé partir travailler et ça m'avait marqué parce que quand on est sorti de cette zone de boue, il s'est assis, il a ouvert son sac et il a partagé le peu qu'il avait dans son sac. Armero, c'était la première fois que j'étais confronté à des mers de cadavres. C'est drôle d'expérience.
Et vous, vous étiez sur place, pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous travailliez pour une télé.
Parce qu'à l'époque, je travaillais pour une télé, on m'avait dit, tu es là-bas, Colombie, machin, va faire des photos. J'étais parti comme... sûrement un peu naïvement, et se trouver plongé dans un drame comme ça, pareil, c'est une expérience de vie.
Alors en 85 aussi, en Colombie, il y a eu la prise du palais de justice par l'armée, alors qu'à l'intérieur, des otages étaient retenus par des guérilleros, et l'assaut a tourné au massacre. Mmh. Ça aussi, c'était en novembre 85.
C'était juste avant 85, la Toma del Palacio, comme ils ont appelé ça, et le palais de justice a brûlé. Et on soupçonne que toutes les archives concernant des procès en cours sur le narcotrafic en aient profité pour brûler avec.
Bien sûr. En 1985, avec Julien, vous en souvenez, la DGSE faisait exploser le Rainbow Warrior dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. En 1985 aussi, la zoologue américaine Diane Fossey, qui luttait pour la protection des gorilles d'Afrique, était retrouvée morte au Rwanda. En 85, s'ouvrait le procès des 9 dirigeants des 3 juntes militaires argentines qui se sont succédés au pouvoir de 76 jusqu'à 82. Et 85, plus légèrement, c'est aussi l'année où l'on repère, après 73 ans après son naufrage, l'épave du Titanic. Ça vous laisse sans voix, tout ça?
Non, ça me laisse pas sans voix. Et évidemment, il y a des choses qui me font plus réagir, notamment Diane Fossey. Je la connaissais évidemment pas, mais pour moi, je la mets dans la triste lignée et je crains qu'elle n'augmente de personnes qui s'engagent pour une sensibilité à la nature ou vivant. Il y a eu cette personne, Diane Fossey, il y a eu Bruno Mancer de notre époque, il y a eu Chico Mendes dans un autre contexte, Rentil Cruz quelque part en fait partie. Et forcément, ça me touche un peu plus près que des gens perdent la vie pour 3 arbres et 2 papillons et 2 singes, si je caricature. Je me dis, on est vraiment un peu tombé sur la tête de pas comprendre à quel point ce qu'ils portent comme engagement est vital au sens propre du terme. Voilà. Et les autres événements aussi, la junte argentine qui tombe avec tout ce qu'il y avait derrière. En fait, ce qui se passe, ce que j'ai envie de dire sur ces événements, c'est que ce qui semble fondamental, la clé de l'harmonie chez les Kogi, qui ont comme mission d'apprendre à vivre en paix ensemble, c'est ce qu'ils se sont donné comme mission, on va dire ça comme ça. Donc je sais pas si on peut qualifier d'archaïque des gens qui apprennent à vivre en paix ensemble, qui n'ont pas le mot ennemi dans leur vocabulaire et donc qui n'ont pas inventé l'idée de guerre, qui est donc un concept culturel, puisqu'ils l'ont pas inventé. Donc apprendre à vivre en paix ensemble, pour arriver à ça, faut dialoguer, faut se parler. C'est pour ça que le dialogue est sacralisé chez eux. Et en entendant ça, c'est tous les soubresauts de l'histoire, parfois tragique et violent, où il n'y a pas de dialogue. Et s'il y avait une clé, ce serait de se dire comment pour rétablir un équilibre, une harmonie, y compris dans les dimensions masculines et féminines, et surtout dans ces dimensions-là, réapprendre à se parler. Et j'oserais le mot, allez, amour.
Ah, vous allez loin.
Bien respecter l'autre dans ce qu'il est et réellement accepter son regard et sa posture.
Dites-moi, Éric Julien, vous êtes prêt à mourir, vous aussi?
Ah, ça
va
m'arriver.
Pour les anciens Kogi?
Ça va forcément
m'arriver. Pour ce combat que vous menez, parce que vous continuez à le mener, ça a commencé en 85. Et vous continuez à le mener, ce combat. Vous n'arrêtez pas. Vous êtes prêt.
Vous savez, j'ai fait beaucoup de montagne. Et en fait, quand on fait de la montagne, on va sur un glacier et on ne sait pas trop si on a des techniques, des connaissances, tout ce qu'on veut, pour se dire, oui, là, je passe sur un pont de glace et je ne risque pas de tomber dans la crevasse. Puis des fois, on ne voit pas le pont de glace. Donc c'est un mélange entre peut-être de l'orgueil, peut-être de l'inconscience et peut-être le fait de dire que... J'ai pas envie de dire que c'est un combat, parce que c'est pas une lutte.
Mais, c'est pas un combat.
Mais j'aimerais dire qu'on a tenté quelque chose dans la joie, la bonne humeur et la poésie créative.
Voilà. Non, mais là, vous bottez en touche.
Non, je botte pas en touche.
Il y a bien plus de risques que
parce
ça
que
dans
je peux
tout
vous
ça.
Assurer que quand les Kogi sont venus au Quai d'Orsay, reçus par des fonctionnaires du Quai d'Orsay, à qui les fonctionnaires ont dit « Vous vivez un génocide, on peut rien faire pour vous. » Et c'est filmé, cette scène, et le Kogi qui nous accompagne dit qu'est-ce qu'ils ont dit, je dis ben, qu'on ne pouvait rien faire pour vous. Et là, on est dans les ors de la République et le Kogi en question s'éloigne un peu, prend un polochon doré avec des pompons et sort vers la porte avec un polochon doré sur le dos. Et je vous laisse imaginer le regard halluciné de la dame qui nous avait accueillis, qui regarde son polochon partir vers la sortie, et du garde républicain qui rendait les armes, la garde à vous, à qui on n'avait pas dû dire, et si un invité part avec un polochon, qu'est-ce que je fais? C'est juste une manière de vous dire, on leur dit, vous vivez un génocide, et ils s'en vont en une pirouette humoristique, évidemment qu'il l'a pas emmené le polochon. Et je pense vraiment que l'humour et la poésie sont des voies de survie indispensables.
Et les Kogis ont beaucoup d'humour?
Ah, ils sont incroyables. Rentil avait ça et les Kogis ont un humour incroyable. Et je pense que l'humour et la poésie, c'est ce qui nous permet de garder la juste distance pour continuer à marcher debout dans cette drôle de vie. Quoi.
Jamais désespéré.
Non. Ma tante est sortie d'Auschwitz debout grâce à la poésie.
Vous me dites ça comme ça?
Comme ça, tranquille. Et ma grande-tante, pas ma tante, elle m'a expliqué longuement que s'il n'y avait pas eu cette dimension-là, poétique, valeur, solidarité, c'est des basiques, elle n'aurait jamais survécu.
Charlotte Delbault?
Ah, je connais pas Charlotte Delbault.
Ah ben, bah, faut lire Charlotte Delbault. Je vais lire Charlotte.
Je compte sur vous.
Sur la solidarité et la poésie.
Apprendre l'immensité des choses que je ne connais
Charlotte
pas encore.
Charlotte Delbault. Charlotte Delbault.
Merci à Charlotte alors.
Ah non, mais grand, vous verrez.
Super.
Ça vous fera penser.
Merci
à votre tante.
Zoé.
En tout cas, merci Éric Julien d'avoir passé cette heure avec nous. Sur le site de l'émission Une journée particulière, vous trouverez les références de votre association, qui s'appelle comment?
C'est un nom barbare,
ouais,
ça
c'est
s'appelle
pour ça.
Chen Dukwa, mais je suis tapé Kogi, ou une école qu'on a ouverte dans la Drôme qui s'appelle l'école de la nature et des savoirs, pour essayer de faire vivre tout ça en France. C'est plus facile que Chen Dukwa, c'est imprononçable.
On trouvera donc les références de votre association, de vos livres, de vos films et de toutes les actions que vous continuez à mener en faveur des Indiens Kogi de Colombie. Parce que tout votre travail, c'est d'essayer de nous faire comprendre que leur sagesse pourrait peut-être nous apporter quelque chose à nous aussi.
Eh bien, toute leur sagesse pourrait nous reconnecter au vivant. Et le mot enthousiasme veut dire retraverser par la vie. Et si on redevenait enthousiaste, c'est un peu le pari.
C'est le pari que vous faites en nous parlant des Kogi.
Yes.
Ok. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Julien Michel. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Voilà, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.